Nana, chapitre 11. Ce dimanche-là, par un ciel orageux des premières chaleurs de juin, on courait le Grand Prix de Paris au bois de Boulogne. Le matin, le soleil s'était levé dans une poussière rousse. Mais vers 11 heures, au moment où les voitures arrivaient à l'hippodrome de Longchamp, un vent du sud avait balayé les nuages. Des vapeurs grises s'en allaient en longues déchirures, des trouées d'un bleu intense s'élargissaient d'un bout à l'autre de l'horizon. Et dans les coups de soleil qui tombaient entre deux nuées, tout flambait brusquement. La pelouse, peu à peu emplie d'une cohue d'équipage, de cavaliers et de piétons, la piste, encore vide, avec la guérite du juge, le poteau d'arrivée, les mâts des tableaux indicateurs, puis en face, au milieu de l'enceinte du pesage, les 5 tribunes symétriques, étageant leurs galeries de briques et de charpentes. Au-delà, la vaste plaine s'aplatissait, se noyait dans la lumière de midi, bordée de petits arbres, fermée à l'ouest par les coteaux, boisés, de Saint-Cloud et de Suresnes, que dominait le profil sévère du Mont Valérien. Nana, passionnée, comme si le Grand Prix allait décider de sa fortune, voulut se placer contre la barrière, à côté du poteau d'arrivée. Elle était venue de très bonne heure, une des premières, dans son landau garni d'argent, attelé à la Daumont de 4 chevaux blancs magnifiques, un cadeau du comte Muffat. Quand elle avait paru à l'entrée de la pelouse, avec 2 postillons trottant sur les chevaux de gauche et 2 valets de pied, immobiles derrière la voiture, une bousculade s'était produite parmi la foule, comme au passage d'une reine. Elle portait les couleurs de l'écurie Vendeuvre, bleu et blanc, dans une toilette extraordinaire. Le petit corsage et la tunique de soie bleue, collant sur le corps, relevaient derrière les reins en un pouf énorme, ce qui dessinait les cuisses d'une façon hardie, par ses temps de jupe ballonnée. Puis, la robe de satin blanc, les manches de satin blanc, une écharpe de satin blanc en sautoir, le tout orné d'une guipure d'argent que le soleil allumait. Avec ça, crânement, pour ressembler davantage à son jockey, elle s'était posé une toque bleue à plumes blanches sur son chignon, dont les mèches jaunes lui coulaient au milieu du dos, pareilles à une énorme queue de poils roux. Midi sonnait. C'était plus de 3 heures à attendre pour la course du Grand Prix. Lorsque le landau se fut rangé contre la barrière, Nana se mit à l'aise, comme chez elle. Elle avait eu le caprice d'amener Bijou et Louisée. Le chien, couché dans ses jupes, tremblait de froid malgré la chaleur, tandis que l'enfant, attifé de rubans et de dentelles, avait une pauvre petite figure de cire, muette, pâlie par le grand air. Cependant, la jeune femme, sans s'inquiéter des voisins, causait très haut avec Georges et Philippe Hugon, assis devant elle, sur l'autre banquette, parmi un tel tas de bouquets, des roses blanches et des myosotis bleus, qu'ils disparaissaient jusqu'aux épaules. « Alors, disait-elle, comme il m'assommait, je lui ai montré la porte, et voilà 2 jours qu'il boude. » Elle parlait de Muffat. Seulement, elle n'avouait pas aux jeunes gens la vraie cause de cette première querelle. Un soir, il avait trouvé dans sa chambre un chapeau d'homme, une toquade bête, un passant ramené par enduit. « Vous ne savez pas comme il est drôle, » continua-t-elle, s'amusant des détails qu'elle donnait. « Au fond, c'est un cagot fini. Ainsi, il dit sa prière tous les soirs. Parfaitement. Il croit que je ne m'aperçois de rien parce que je me couche la première, ne voulant pas le gêner. Mais je le guigne de l'œil. Il bredouille, il fait son signe de croix en se tournant pour m'enjamber et aller se mettre au fond. « Tiens, c'est malin, » murmura Philippe. « Avant et après, alors ?» Elle eut un beau rire. Oui, c'est ça, avant et après. Quand je m'endors, je l'entends de nouveau qui bredouille. Mais ce qui devient embêtant, c'est que nous ne pouvons plus nous disputer sans qu'il retombe dans l'écurie. Moi, j'ai toujours eu de la religion. Sans doute, blaguer, si vous voulez, ça ne m'empêchera pas de croire ce que je crois. Seulement, il est trop raseur, il sanglote, il parle de ses remords. Ainsi, avant-hier, après notre attrapage, il a eu une vraie crise. Je n'étais pas rassurée du tout. Mais elle s'interrompit pour dire: Regardez donc, voilà les mignons qui arrivent. Tiens, ils ont amené les enfants. Sont-ils fagotés, ces petits? Les mignons étaient dans un landau aux couleurs sévères, un luxe cossu de bourgeois enrichis. Rose, en robe de soie grise, garnie de bouillonnets et de nœuds rouges, souriait, heureuse de la joie d'Henri et de Charles, assis sur la banquette de devant, engoncés dans leur tunique trop large de collégien. Mais quand le landau fut venu se ranger près de la barrière et qu'elle aperçut Nana triomphante au milieu de ses bouquets, avec ses quatre chevaux et sa livrée, elle pinça les lèvres, très raides, tournant la tête. Mignon, au contraire, la mine fraîche, l'œil gai, envoya un salut de la main. Lui, par principe, restait en dehors des querelles de femmes. À propos, reprit Nana, connaissez-vous un petit vieux bien propre, avec des dents mauvaises? Un monsieur Venot. Il est venu me voir ce matin. Monsieur Venot? Dit Georges stupéfait. Pas possible. C'est un jésuite. Précisément, j'ai flairé ça. Oh, vous n'avez pas idée de la conversation. Ça a été d'un drôle. Il m'a parlé du comte, de son ménage désuni, me suppliant de rendre le bonheur à une famille. Très poli d'ailleurs, très souriant. Alors moi, je lui ai répondu que je ne demandais pas mieux, et je me suis engagée à remettre le compte avec sa femme. Vous savez, ce n'est pas une blague. Je serais enchantée de les voir tous heureux, ces gens. Puis ça me soulagerait, car il y a des jours, vrai, où ils m'assomment. Sa lassitude des derniers mois lui échappait dans ce cri de son cœur. Avec ça, le comte paraissait avoir de gros embarras d'argent. Il était soucieux. Le billet signé à l'Abordette menaçait de n'être pas payé. Justement, la comtesse est là-bas, dit Georges, dont les regards parcouraient les tribunes. Où donc? S'écria Nana. A-t-il des yeux, ce bébé? Tenez mon ombrelle, Philippe. Mais Georges, d'un mouvement brusque, avait devancé son frère, ravi de porter l'ombrelle de soie bleue à franges d'argent. Nana promenait une énorme jumelle. Ah oui, je la vois, dit-elle enfin. Dans la tribune de droite, près d'un pilier, n'est-ce pas? Elle est en mauve, avec sa fille en blanc à côté d'elle. Tiens, Daguenet qui va les saluer. Alors, Philippe parla du prochain mariage de Daguenet avec cette perche d'Estelle. C'était une chose faite, on publiait les bans. La comtesse résistait d'abord, mais le comte, disait-on, avait imposé sa volonté. Nana souriait. Je sais, murmura-t-elle. Tant mieux pour Paul, c'est un gentil garçon, il mérite ça. Et se penchant vers Louiset, Tu t'amuses, dis? Quelle mine sérieuse! L'enfant, sans un sourire, regardait tout ce monde, l'air très vieux, comme plein de réflexions tristes sur ce qu'il voyait. Bijou, chassé des jupes de la jeune femme qui remuait beaucoup, était allé trembler contre le petit. Cependant, la pelouse s'emplissait. Des voitures continuellement arrivaient par la porte de la cascade en une file compacte, interminable. C'étaient de grands omnibus, la Pauline, partie du boulevard des Italiens, chargé de ses 50 voyageurs et qui allait se ranger à droite des tribunes. Puis des dog-carts, des Victoria, des landaus d'une correction superbe, mêlés à des fiacres lamentables que des rosses secouaient. Et des four-in-hand, poussant leurs quatre chevaux, et des mile-coach, avec les maîtres en l'air, sur les banquettes, laissant à l'intérieur les domestiques garder les paniers de champagne. Et encore des araignées, dont les roues immenses jetaient un éblouissement d'acier. Des tandems légers, fins comme des pièces d'horlogerie, qui filaient au milieu d'un bruit de grelots. Par moments, un cavalier passait, un flot de piétons courait, effaré, à travers les équipages. Sur l'herbe, tout d'un coup, le roulement lointain qui venait des allées du bois cessait dans un frôlement sourd. On n'entendait plus que le brouhaha de la foule croissante, des cris, des appels, des claquements de fouet envolés dans le plein air. Et lorsque le soleil, sous les coups de vent, reparaissait au bord d'un nuage, une traînée d'or courait, allumait les harnais et les panneaux vernis, incendiait les toilettes. Tandis que, dans cette poussière de clarté, les cochers, très haut sur leurs sièges, flambaient avec leurs grands fouets. Mais la Bordette descendait d'une calèche où Gaga, Clarisse et Blanche de Sivry lui avaient réservé une place. Comme il se hâtait pour traverser la piste et entrer dans l'enceinte du pesage, Nana le fit appeler par Georges. Puis, quand il fut là, « À combien suis-je » demanda-t-elle en riant. Elle voulait parler de Nana, la pouliche, cette Nana qui s'était laissée battre honteusement dans le prix de Diane et qui même, en avril et en mai dernier, n'avait pas été placée, en courant le prix des quarts et la grande poule des produits, gagnée par Lusignan, l'autre cheval de l'écurie Vendeuvre. Du coup, Lusignan était passé grand favori. Depuis la veille, on le prenait couramment à 2-1. « Toujours à 50 », répondit la Bordette. « Diable, je ne vaux pas cher !» reprit Nana, que cette plaisanterie amusait. « Alors, je ne me prends pas. Non, fichtre, je ne me mets pas un louis sur moi. » La Bordette, très pressée, repartait. Mais elle le rappelait. Elle voulait un conseil. Lui, qui gardait des relations dans le monde des entraîneurs et des jockeys, avait des renseignements particuliers sur les écuries. 20 fois déjà, ses pronostics s'étaient réalisés. Le roi des tipsters, comme on le nommait. « Voyons, quels chevaux dois-je prendre ?» répétait la jeune femme. « À combien est l'anglais ?»« Spirit ?»« À 3. »« Valerio 2 ?»« À 3 également. » »« Puis tous les autres, Cosinus à 25, Hazard à 40, Boom à 30, Pichenette à 35, Frangipane à 10. »« Non, je ne parie pas pour l'anglais, moi. Je suis patriote. Hein ?» Peut-être Valerio II. Le duc de Corbreuse avait l'air rayonnant tout à l'heure. Eh non, après tout, 50 louis sur Lusignan, qu'en dis-tu? La Bordette la regardait d'un air singulier. Elle se pencha, elle l'interrogea à voix basse, car elle savait que Vendeuvre le chargeait de prendre pour lui au bookmakers, afin de parier plus à l'aise. S'il avait appris quelque chose, il pouvait bien le dire. Mais la Bordette, sans s'expliquer, la décida à s'en remettre à son flair. Il placerait ses 50 louis comme il l'entendrait, et elle ne s'en repentirait pas. « Tous les chevaux que tu voudras » cria-t-elle gaiement en le laissant aller. « Mais pas de Nana, c'est une rosse !» Ce fut un accès de fou rire dans la voiture. Les jeunes gens trouvaient le mot très drôle. Tandis que Louiset, sans comprendre, levait ses yeux pâles vers sa mère, dont les éclats de voix le surprenaient. La Bordette, d'ailleurs, ne put encore s'échapper. Rose Mignon lui avait fait un signe, et elle lui donnait des ordres. Il inscrivait des chiffres sur un calepin. Puis, ce furent Clarisse et Gaga qui le rappelèrent pour changer leur pari. Elles avaient entendu des mots dans la foule. Elles ne voulaient plus de Valerio II, et prenait Lusignan. Lui, impassible, écrivait. Enfin, il se sauva, on le vit qui disparaissait, de l'autre côté de la piste, entre 2 tribunes. Les voitures arrivaient toujours. Maintenant, elles se rangeaient sur une cinquième file, s'élargissant le long de la barrière en une masse profonde, toutes bariolées par les taches claires des chevaux blancs. Puis, au-delà, c'était une débandade d'autres voitures, isolées comme échouées dans l'herbe, un pêle-mêle de roues, d'attelages jetés en tous sens, côte à côte, de biais, en travers, tête contre tête. Et, sur les nappes de gazon restées libres, les cavaliers trottaient, les gens à pied mettaient des groupes noirs continuellement en marche. Au-dessus de ce champ de foire, dans la chinure brouillée de la foule, les buvettes haussaient leurs tentes de toile grise que les coups de soleil blanchissaient. Mais la bousculade, des tas de monde, des remous de chapeaux, avait surtout lieu autour des bookmakers, montés dans des voitures découvertes, gesticulant comme des dentistes, avec leurs cottes près d'eux, collées sur de hautes planches. « C'est bête, tout de même, de ne pas savoir pour quel cheval on parie, » disait Nana. « Faut que je risque quelques louis moi-même. » Elle s'était mise debout pour choisir un bookmaker qui eût une bonne figure. Cependant, elle oublia son désir en apercevant toute une foule de sa connaissance. Outre les mignons, outre Gaga, Clarisse et Blanche, il y avait là, à droite, à gauche, en arrière, au milieu de la masse des voitures qui maintenant emprisonnait son landau, Tatan aîné en compagnie de Maria Blond avec une Victoria, Caroline Equet avec sa mère et deux messieurs dans une calèche, Louise Violaine, toute seule, conduisant elle-même un petit panier enrubanné aux couleurs de l'écurie Méchain, orange et vert. Léa de Horn, sur une banquette haute de mile coach, où une bande de jeunes gens faisait un vacarme. Plus loin, dans un huit ressorts d'une tenue aristocratique, Lucie Stewart, en robe de soie noire très simple, prenait des airs de distinction, à côté d'un grand jeune homme qui portait l'uniforme des aspirants de marine. Mais ce qui stupéfia Nana, ce fut de voir arriver Simone dans un tandem que Steiner conduisait, avec un laquais derrière, immobile, les bras croisés. Elle était éblouissante, tout en satin blanc, rayée de jaune, couverte de diamants depuis la ceinture jusqu'au chapeau. Tandis que le banquier, allongeant un fouet immense, lançait les deux chevaux attelés en flèche, le premier un petit alezan doré, au trot de souris, le second un grand bai brun, un stepper qui trottait les jambes hautes. « Bigre !» dit Nana. « Ce voleur de Steiner vient donc une fois encore de nettoyer la bourse. Ah, Simone a-t-elle un chic ? C'est trop, on va l'empoigner. » Pourtant, elle échangea un salut de loin. Elle agitait la main, elle souriait, se tournait, n'oubliait personne pour se faire voir de tous. Et elle continuait de causer. « Mais c'est son fils que Lucie traîne avec elle. Il est gentil en uniforme. Voilà donc pourquoi elle prend son air. Vous savez qu'elle a peur de lui et qu'elle se fait passer pour une actrice ? Pauvre jeune homme, tout de même. Il ne semble pas se douter. « Bah ! » murmura Philippe en riant. « Quand elle voudra, elle lui trouvera une héritière en province. » Nana se taisait. Elle venait d'apercevoir, au plus épais des équipages, la Tricon. Arrivée dans un fiacre, d'où elle ne voyait rien, la Tricon était tranquillement montée sur le siège du cocher. Et là-haut, redressant sa grande taille, avec sa figure noble aux longues anglaises, elle dominait la foule, elle semblait régner sur son peuple de femmes. Toutes lui souriaient, discrètement. Elle, supérieure, affectait de ne pas les connaître. Elle n'était pas là pour travailler. Elle suivait les courses par plaisir, joueuse enragée, ayant la passion des chevaux. « Tiens, cet idiot de la Faloise !» dit Georges tout à coup. Ce fut un étonnement. Nana ne reconnaissait plus son La Faloise. Depuis qu'il avait hérité, il était devenu d'un chic extraordinaire. le col brisé, vêtue d'une étoffe de couleur tendre qui collait à ses maigres épaules, coiffée de petits bandeaux, il affectait un dandinement de lassitude, une voix molle avec des mots d'argot, des phrases qu'il ne se donnait pas la peine de finir. « Mais il est très bien !» déclara Nana, séduite. Gaga et Clarisse avaient appelé la Faloise, se jetant à sa tête, tâchant de le reprendre. Il les quitta tout de suite, avec un déhanchement de blagues et de dédain. Nana l'éblouit. Il accourut, se tint sur le marchepied de la voiture, et, comme elle le plaisantait au sujet de Gaga, il murmura « Oh non, fini la vieille garde, faut plus me la faire. Et puis, vous savez, c'est vous maintenant, ma Juliette. » Il avait mis la main sur son cœur. Nana riait beaucoup de cette déclaration si brusque, en plein air. Mais elle reprit « Dites donc, ce n'est pas tout ça. Vous me faites oublier que je veux parier. Georges, tu vois ce bookmaker là-bas, le gros rouge avec des cheveux crépus. Il a une tête de sale canaille qui me plaît. Tu vas aller lui prendre. Hein? Que peut-on bien lui prendre? Moi, pas patriote? Oh non! Bégayait la Faloise. Moi, tout sur l'anglais. Très chic si l'anglais gagne. À Chaillot, les Français. Nana fut scandalisée. Alors on discuta les mérites des chevaux. La Faloise, pour affecter d'être très au courant, les traitait tous de rosses. Frangipane, au baron Verdier, étaient par de tous et Léonore, un grand bai qui aurait eu des chances si on ne l'avait pas fourbu à l'entraînement. Quant à Valério II de l'écurie Corbreuse, il n'était pas prêt. Il avait eu des tranchées en avril. Oh, on cachait ça, mais lui en était sûr, parole d'honneur. Et il finit par conseiller Hasard, un cheval de l'écurie Méchain, le plus défectueux de tous, dont personne ne voulait. Fichtre, Hasard, une forme superbe et une action. Voilà une bête qui allait surprendre son monde. Non, dit Nana, je vais mettre 10 louis sur Lusignan et 5 sur Boum. Du coup, la Faloise éclata. « Mais ma chère, infecte Boum, prenez pas ça. Gasque lui-même lâche son cheval. Et votre Lusignan, jamais, des blagues. Parlambe et princesse, songez donc. Jamais Parlambe et princesse, tous trop courts de jambes. » Il s'étranglait. Philippe fit remarquer que pourtant Lusignan avait gagné le prix des quarts et la grande poule des produits. Mais l'autre repartit. Qu'est-ce que ça prouvait? Rien du tout. Au contraire, il fallait se défier. Et d'ailleurs, c'était Gresham qui montait Lusignan. Alors qu'on lui ficha la paix. Gresham avait la guigne. Jamais il n'arrivait. Et d'un bout à l'autre de la pelouse, la discussion qui s'élevait dans le landau de Nana semblait s'élargir. Des voix glapissantes montaient. La passion du jeu soufflait, allumant les visages, détraquant les gestes. Tandis que les bookmakers, penchés sur leur voiture, criaient des cotes, inscrivaient des chiffres furieusement. Il n'y avait là que le fretin des parieurs. Les forts paris se faisaient dans l'enceinte du pesage. Et c'était une âpreté des petites bourses, risquant 100 sous, toutes les convoitises étalées pour un gain possible de quelques louis. En somme, la grande bataille se livrait entre Spirit et Lusignan. Des Anglais, reconnaissables, se promenaient parmi les groupes, comme chez eux, la face enflammée, triomphant déjà. Brahma, un cheval de Lord Reading, avait gagné le grand prix l'année précédente. Des fêtes dont les cœurs saignaient encore. Cette année, ce serait un désastre si la France était battue de nouveau. Aussi, toutes ces dames se passionnaient-elles, par orgueil national. L'écurie Vendeuvre devenait le rempart de notre honneur. On poussait Lusignan, on le défendait, on l'acclamait. Gaga, Blanche, Caroline et les autres pariaient pour Lusignan. Lucy Stewart s'abstenait à cause de son fils. mais le bruit courait que Rose Mignon avait donné commission à la Bordette pour 200 louis. Seule la Tricon, assise près de son cocher, attendait la dernière minute. Très froide, au milieu des querelles, dominant le tapage croissant où les noms des chevaux revenaient, dans des phrases vives de Parisiens, mêlées aux exclamations gutturales des Anglais, elle écoutait, elle prenait des notes d'un air de majesté. « Et Nana ?» dit Georges. « Personne n'en demande ?» Personne n'en demandait, en effet. On n'en parlait même pas. L'outsider de l'écurie Vendeuvre disparaissait dans la popularité de Lusignan. Mais la Faloise leva les bras en l'air, disant « J'ai une inspiration. Je mets 1 louis sur Nana. »« Bravo ! Je mets 2 louis !» dit Georges. « Moi, 3 louis !» ajouta Philippe. Et ils montèrent, ils firent leur cours, plaisamment, lançant des chiffres, comme s'ils s'étaient disputés Nana aux enchères. La Faloise parlait de la couvrir d'or. D'ailleurs, tout le monde devait mettre, on allait racoler des parieurs. Mais, comme les 3 jeunes gens s'échappaient pour faire de la propagande, Nana leur cria « Vous savez, je n'en veux pas, moi, pour rien au monde. Georges, 10 louis sur Lusignan et 5 sur Valério II. » Cependant, ils s'étaient lancés. Égayés, elles les regardaient se couler entre les roues, se baisser sous les têtes des chevaux, battre la pelouse entière. Dès qu'ils reconnaissaient quelqu'un dans une voiture, ils accouraient, ils poussaient Nana. Et c'était de grands éclats de rire qui passaient sur la foule, lorsque parfois ils se retournaient, triomphants, indiquant des nombres avec le doigt, tandis que la jeune femme, debout, agitait son ombrelle. Pourtant, ils faisaient d'assez pauvres besognes. Quelques hommes se laissaient convaincre, par exemple Steiner, que la vue de Nana remuait, risqua 3 louis. Mais les femmes refusaient absolument. Merci, pour perdre à coup sûr. Puis, ce n'était pas pressé de travailler au succès d'une sale fille qui les écrasait toutes, avec ses 4 chevaux blancs, ses postillons, son air d'avaler le monde. Gaga et Clarisse, très pincées, demandèrent à la Faloise s'il se fichait d'elle. Quand Georges, hardiment, se présenta devant le landau des Mignons, Rose, outrée, tourna la tête sans répondre. Il fallait être une jolie ordure pour laisser donner son nom à un cheval. Au contraire, Mignon suivit le jeune homme, l'air amusé, disant que les femmes portaient toujours bonheur. « Eh bien ?» demanda Nana quand les jeunes gens revinrent, après une longue visite au bookmaker. « Vous êtes à 40 !» dit la Faloise. « Comment à 40 » cria-t-elle stupéfaite. « J'étais à 50. Que se passe-t-il » La Bordette, justement, avait reparu. On fermait la piste, une volée de cloches annonçait la première course. Et, dans le brouhaha d'attention, elle le questionna sur cette hausse brusque de la cote. Mais il répondit évasivement. Sans doute, des demandes s'étaient produites. Elle dut se contenter de cette explication. D'ailleurs, la Bordette, l'air préoccupé, lui annonça que Vendeuvre allait venir s'il pouvait s'échapper. La course s'achevait, comme inaperçue dans l'attente du Grand Prix, lorsqu'un nuage creva sur l'hippodrome. Depuis un instant, le soleil avait disparu, un jour livide assombrissait la foule. Le vent se leva, ce fut un brusque déluge, des gouttes énormes, des paquets d'eau qui tombaient. Il y eut une minute de confusion, des cris, des plaisanteries, des jurements, au milieu du sauve-qui-peut des piétons galopant et se réfugiant sous les tentes des buvettes. Dans les voitures, les femmes tâchaient de s'abriter, tenaient à deux mains leurs ombrelles, pendant que les laquais effarés couraient aux capotes. Mais l'averse cessait déjà. Le soleil resplendissait dans la poussière de pluie qui volait encore. Une déchirure bleue s'ouvrait derrière la nuée, emportée au-dessus du bois. Et c'était comme une gaieté du ciel, soulevant les rires des femmes rassurées. Tandis que la nappe d'or, dans les brouements des chevaux, dans la débandade et l'agitation de cette foule trempée qui se secouait, allumait la pelouse toute ruisselante de gouttes de cristal. « Ah, ce pauvre Louiset !» dit Nana. « Es-tu beaucoup mouillé, mon chéri ?» Le petit, sans parler, se laissa essuyer les mains. La jeune femme avait pris son mouchoir. Elle tamponna ensuite Bijou, qui tremblait plus fort. Ce ne serait rien, quelques taches sur le satin blanc de sa toilette. Mais elle s'en fichait. Les bouquets, rafraîchis, avaient un éclat de neige, et elle en respirait un, heureuse, mouillant ses lèvres comme dans de la rosée. Cependant, ce coup de pluie avait brusquement empli les tribunes. Nana regardait avec sa jumelle. À cette distance, on distinguait seulement une masse compacte et brouillée, entassée sur les gradins, un fond sombre que les taches pâles des figures éclairaient. Le soleil glissait par des coins de toiture, écornait la foule assise d'un angle de lumière, où les toilettes semblaient déteindre. Mais Nana s'amusait surtout des dames, que l'averse avait chassées des rangées de chaises, alignées sur le sable, au pied des tribunes. Comme l'entrée de l'enceinte du pesage était absolument interdite aux filles, Nana faisait des remarques pleines d'aigreur sur toutes ces femmes comme il faut, qu'elle trouvait fagotées, avec de drôles de têtes. Une rumeur courut. L'impératrice entrait dans la petite tribune centrale, un pavillon en forme de chalet, dont le large balcon était garni de fauteuils rouges. « Mais c'est lui !» dit Georges. « Je ne le croyais pas de service cette semaine. » La figure raide et solennelle du comte Muffat avait paru derrière l'impératrice. Alors les jeunes gens plaisantèrent, regrettant que Satin ne fût pas là pour aller lui taper sur le ventre. Mais Nana rencontra au bout de sa jumelle la tête du prince d'Écosse dans la tribune impériale. « Tiens, Charles ! » cria-t-elle. Elle le trouvait engraissé. En 18 mois, il s'était élargi. Et elle donna des détails. Oh, un gaillard bâti solidement. Autour d'elle, dans les voitures de ces dames, on chuchotait que le comte l'avait lâché. C'était toute une histoire. Les Tuileries se scandalisaient de la conduite du chambellan depuis qu'il s'affichait. Alors, pour garder sa situation, il venait de rompre. La Faloise, carrément, rapporta cette histoire à la jeune femme, s'offrant de nouveau en l'appelant sa Juliette. Mais elle eut un beau rire. Elle dit « Cet imbécile, vous ne le connaissez pas, je n'ai qu'à faire psst pour qu'il lâche tout. » Depuis un instant, elle examinait la comtesse Sabine et Estelle. Daguenet était encore près de ces dames. Fauchery, qui arrivait, dérangeait le monde pour les saluer, et lui aussi restait là, l'air souriant. Alors, elle continua, en montrant les tribunes d'un geste dédaigneux. « Puis, vous savez, ces gens ne m'épatent plus, moi. Je les connais trop. Faut voir ça au déballage. Plus de respect, fini le respect. Saleté en bas, saleté en haut. C'est toujours saleté et compagnie. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on m'embête. » Et son geste s'élargissait, montrant des palefreniers qui amenaient les chevaux sur la piste jusqu'à la souveraine causant avec Charles. Un prince, mais un salaud de même. « Bravo, Nana ! Très chic, Nana !» cria la Faloise enthousiasmée. Des coups de cloche se perdaient dans le vent. Les courses continuaient. On venait de courir le prix d'Ispahan que Berlingot, un cheval de l'écurie Méchain, avait gagné. Nana rappela la bordette pour demander des nouvelles de ses 100 louis. Il se mit à rire, il refusa de lui faire connaître ses chevaux afin de ne pas déranger la chance, disait-il. Son argent était bien placé, elle verrait tout à l'heure. Et comme elle lui avouait ses paris, 10 louis sur Lusignan et 5 sur Valério II, il haussa les épaules, ayant l'air de dire que les femmes faisaient quand même des bêtises. Cela l'étonna. elle ne comprenait plus. À ce moment, la pelouse s'animait davantage. Des lunchs s'organisaient en plein air en attendant le Grand Prix. On mangeait, on buvait plus encore, un peu partout, sur l'herbe, sur les banquettes élevées des Fahrenheit et des Mile Coach, dans les Victoria, les coupés, les landaus. C'était un étalage de viande froide, une débandade de paniers de champagne qui sortaient des caissons aux mains des valets de pied. Les bouchons partaient, avec de faibles détonations, emportés par le vent. Des plaisanteries se répondaient, des bruits de verre qui se brisaient mettaient des notes fêlées dans cette gaieté nerveuse. Gaga et Clarisse faisaient avec Blanche un repas sérieux, mangeant des sandwichs sur une couverture étalée dont elles couvraient leurs genoux. Louise Violaine, descendue de son panier, avait rejoint Caroline et Kay. Et à leurs pieds, dans le gazon, des messieurs installaient une buvette où venaient boire Tatan, Maria, Simone et les autres. Tandis que, près de là, en l'air, on vidait des bouteilles sur le Mile Coach de Léa de Horn. Toute une bande se grisant dans le soleil, avec des bravades et des poses au-dessus de la foule. Mais bientôt, on se pressa surtout devant le landau de Nana. Debout, elle s'était mise à verser des verres de champagne aux hommes qui la saluaient. L'un des valets de pied, François, passait les bouteilles, pendant que la Faloise, tâchant d'attraper une voix canaille, lançait un boniment. « Approchez, messieurs, c'est pour rien, tout le monde en aura. »« Taisez-vous, mon cher, » finit par dire Nana. « Nous avons l'air de saltimbanques. » Elle le trouvait bien drôle, elle s'amusait beaucoup. Un instant, elle eut l'idée d'envoyer par Georges un verre de champagne à Rose Mignon, qui affectait de ne pas boire. Henri et Charles s'ennuyaient à crever. Ils auraient voulu du champagne, les petits. Mais Georges but le verre, craignant une dispute. Alors Nana se souvint de Louisée, qu'elle oubliait derrière elle. Peut-être avait-il soif. Et elle le força à prendre quelques gouttes de vin, ce qui le fit horriblement tousser. « Approchez, approchez, messieurs !» répétait la Faloise. « Ce n'est pas deux sous, ce n'est pas un sou, nous le donnons !» Mais Nana l'interrompit par une exclamation. Hey, « Hé, Bordenave là-bas! Appelez-le! Oh, je vous en prie, courez !» C'était Bordenave, en effet, se promenant les mains derrière le dos, avec un chapeau que le soleil rougissait, et une redingote graisseuse, blanchie aux coutures. Un Bordenave décati par la faillite, mais quand même furieux, étalant sa misère parmi le beau monde, avec la carrure d'un homme toujours prêt à violer la fortune. « Bigre, quel chic !» dit-il lorsque Nana lui tendit la main en bonne fille. Puis, après avoir vidé un verre de champagne, il eut ce mot de profond regret. « Ah, si j'étais femme !»« Mais, nom de Dieu, ça ne fait rien. Veux-tu rentrer au théâtre ? J'ai une idée. Je loue la gaieté. Nous claquons Paris à nous deux. Hein ? Tu me dois bien ça !» Et il resta, grognant, heureux pourtant de la revoir. Car, disait-il, cette sacrée Nana lui mettait du baume dans le cœur, rien qu'à vivre devant lui. C'était sa fille, son vrai sang. Le cercle grandissait. Maintenant, la Faloise versait, Philippe et Georges racolaient des amis. Une poussée lente amenait peu à peu la pelouse entière. Nana jetait à chacun un rire, un mot drôle. Les bandes de buveurs se rapprochaient, tout le champagne épars marchait vers elle. Et il n'y avait bientôt plus qu'une foule, qu'un vacarme autour de son landau. Et elle régnait parmi les verres qui se tendaient, avec ses cheveux jaunes envolés, son visage de neige baigné de soleil. Alors, au sommet, pour faire crever les autres femmes qu'enrageait son triomphe, elle leva son verre plein dans son ancienne pose de Vénus victorieuse. Mais quelqu'un la touchait par derrière, et elle fut surprise, en se retournant, d'apercevoir Mignon sur la banquette. Elle disparut un instant, elle s'assit à son côté, car il venait lui communiquer une chose grave. Mignon disait partout que sa femme était ridicule d'en vouloir à Nana. Il trouvait ça bête et inutile. « Voici, ma chère, murmura-t-il. Méfie-toi, ne fais pas trop enrager Rose. Tu comprends, j'aime mieux te prévenir. Oui, elle a une arme, et comme elle ne t'a jamais pardonné l'affaire de la petite duchesse... »
« Une arme ?» dit Nana. « Qu'est-ce que ça me fiche ?»«
Écoute donc, c'est une lettre qu'elle a dû trouver dans la poche de Fauchery. Une lettre écrite à cette Rose de Fauchery par la comtesse Muffa. Et dame, là-dedans, c'est clair, ça y est en plein. Alors, Rose veut envoyer la lettre au comte pour se venger de lui et de toi. »«
Qu'est-ce que ça me fiche ?» répéta Nana.
« C'est drôle, ça !»
« Ah, ça y est, avec Fauchery. Eh bien, tant mieux, elle m'agaçait. Nous allons rire. »«
Mais non, non, je ne veux pas, » reprit vivement Mignon. « Un joli scandale. Puis, nous n'avons rien à y gagner. » Il s'arrêta, craignant d'en dire trop. Elle s'écriait que, bien sûr, elle n'irait pas repêcher une femme honnête. Mais, comme il insistait, elle le regarda fixement. Sans doute, il avait peur de voir Fauchery retomber dans son ménage, s'il rompait avec la comtesse. C'était ce que Rose voulait, tout en se vengeant, car elle gardait une tendresse pour le journaliste. Et Nana devint rêveuse. Elle songeait à la visite de M. Venot. Un plan poussait en elle, tandis que Mignon tâchait de la convaincre.
« Mettons que Rose envoie la lettre, n'est-ce pas ? « Il y a un esclandre. Tu es mêlé là-dedans. On dit que tu es la cause de tout. D'abord, le comte se sépare de sa femme.
« Pourquoi ça ? » dit-elle.
« Au contraire !»
À son tour, elle s'interrompit. Elle n'avait pas besoin de penser tout haut. Enfin, elle eut l'air d'entrer dans les vues de Mignon pour se débarrasser de lui. Et comme il lui conseillait une soumission auprès de Rose, par exemple une petite visite sur le champ de course, devant tous, elle répondit qu'elle verrait, qu'elle réfléchirait. Un tumulte la fit se relever. Sur la piste, des chevaux arrivaient dans un coup de vent. C'était le prix de la ville de Paris que gagnait Cornemuse. Maintenant, le grand prix allait être couru, la fièvre augmentait, une anxiété fouettait la foule, piétinant, ondulant, dans un besoin de hâter les minutes. Et, à cette heure dernière, une surprise effarait les parieurs. La hausse continue de la cote de Nana, l'outsider de l'écurie Vendeuvre. Des messieurs revenaient à chaque instant avec une cote nouvelle. Nana était à 30, Nana était à 25, puis à 20, puis à 15. Personne ne comprenait. Une pouliche battue sur tous les hippodromes, une pouliche dont le matin pas un parieur ne voulait à 50, que signifiait ce brusque affolement? Les uns se moquaient en parlant d'un joli nettoyage pour les nigauds qui donnaient dans cette farce, d'autres, sérieux, inquiets, flairaient là-dessous quelque chose de louche. Il y avait un coup peut-être. On faisait allusion à des histoires, au vol toléré des champs de course, mais cette fois, le grand nom de Vendeuvre arrêtait les accusations, et les sceptiques l'emportaient, en somme, lorsqu'il prédisait que Nana arriverait belle dernière.
« Qui est-ce qui monte, Nana ?» demanda la Faloise.
Justement, la vraie Nana reparaissait. Alors, ces messieurs donnèrent à la question un sens malpropre, en éclatant d'un rire exagéré. Nana saluait.
« C'est Price, » répondit-elle.